Chapitre 72. Fin de partie. Scarlett et moi quittâmes Macaire à Besner et Genève sans être beaucoup plus avancés dans notre enquête. Nous n'avions toujours pas identifié le meurtrier. De retour à Verbier, nous nous enfermâmes dans ma suite pour rassembler, une fois encore, toutes les pièces du puzzle. Nous passâmes des heures à reprendre tous les éléments du dossier, commandant pour notre dîner des cheeseburgers frites servis en chambre, que nous mangeâmes en épluchant et relisant les éléments du dossier déjà pourtant parcourus plusieurs fois. Un détail nous échappait encore, mais lequel ? À 2 heures du matin, nous fixions le mur sur lequel nous avions inscrit, sur 3 feuilles de papier, les noms des 3 suspects potentiels dans cette affaire. Anastasia, Lev, Macaire. Scarlett soupira en regardant une photo du tableau conçu à l'époque par le lieutenant Sagamore et qui indiquait ces mêmes noms pour suspects. « Nous arrivons à la même conclusion que la police, » dit Scarlett. « Nous sommes coincés exactement au même point de l'enquête. » Nous étions épuisés et, je dois avouer, un peu découragés. Mais nous devions tenir bon. « Un peu de café ?» proposai-je. « Je veux bien. » J'activai la machine à capsules. Scarlett, elle, reclassa méthodiquement tous les éléments du tableau de Sagamore en reprenant les pièces que nous avions illégalement photographiées. Pendant encore plus d'une heure, elle passa en revue chacun des éléments retenus par Sagamore à l'époque. C'est ainsi que nous évoquâmes à nouveau l'intervention de la sécurité dans la chambre 623, et dont voici l'extrait de la déclaration faite à la police le matin du meurtre par un dénommé Milan Luca, le chef de la sécurité du palace. Samedi soir, 15 décembre à 23h50, j'ai été appelé pour du grabuge dans la chambre 623. Je me suis immédiatement rendu à la chambre en question, où j'ai été accueilli par un homme qui m'a assuré que tout allait bien. J'ai songé que ce n'était peut-être pas la bonne chambre. Il n'y avait pas un bruit dans le couloir. Tout semblait tranquille. Je n'ai pas insisté et je suis reparti. J'ai informé le directeur, au cas où il faudrait intervenir de nouveau. Ça avait été une drôle de soirée. Il valait mieux être prudent. Mais il n'y a plus d'appel ensuite. La nuit a été calme. Enfin, si on peut dire. Le lendemain, on retrouva un cadavre dans la chambre 622. Après m'en avoir donné lecture, Scarlett ajouta. Le rapport précise que l'homme qui a accueilli le chef de la sécurité dans la chambre 623 était Jean-Bénédicte Hansen, reconnu grâce à une photo. Elle s'interrompit soudain, songeuse. Qu'y a-t-il ? Demandai-je. Le chef de la sécurité parle de grabuge. Oui, et alors ? Cela sous-entend une forme de bagarre, non ? Oui, effectivement. C'est une dispute bruyante. Donc, cela implique que Jean-Bénédicte Hansen n'était pas seul dans la chambre 623. À l'époque, ça n'a pas frappé Sagamore, puisqu'il pensait que Jean-Bénédicte Hansen était Tarnogol. La présence de Jean-Bénédicte dans la chambre 623, celle de Tarnogol, n'avait donc rien de surprenant. Mais Tarnogol était en réalité Lev Levovitch. Sagamore est passé à côté de ce détail. Jean-Bénédicte serait donc disputé avec Tarnogol, c'est-à-dire avec Levovitch, dis-je, comprenant où Scarlett voulait en venir. Elle acquiesça. Le samedi 15 décembre, Jean-Bénédicte Hansen se disputait avec Levovitch. Quelques heures plus tard, il était retrouvé mort. Milan Luca ne travaille plus au palace depuis des années, mais il nous suffit de quelques recherches sur Internet pour le retrouver. Il dirigeait aujourd'hui sa propre société de surveillance, baptisée Luca Sécurité, et dont les locaux se trouvaient à Sion. C'est ainsi que le lendemain matin, vendredi 6 juillet 2018, après une courte nuit de sommeil, nous allâmes trouver Milan Luca au siège de sa société, dans le centre-ville de Sion. C'était un homme âgé d'une 50aine d'années, costaud, et d'apparence peu commode, mais en fait sympathique. Il nous reçut aimablement alors que nous débarquions à l'improviste. On le sentait ému en évoquant ses années au palace. « J'ai été très heureux là-bas, » nous confia-t-il. « Je suis arrivé en Suisse lorsque j'étais un tout jeune homme, et j'ai eu la chance de rencontrer M. Rose. Il savait vous inspirer confiance en vous pour que vous donniez le meilleur de vous-même. J'étais engagé au sein de l'équipe de sécurité dont je suis ensuite devenu le chef. Je lui dois beaucoup. » Pourquoi avoir quitté le palace ? Je l'ai fait après la mort de M. Rose. C'était plus la même chose sans lui. Et puis, pour être honnête, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en aller et monter ma boîte. Mais je restais par fidélité à M. Rose. Enfin, même si après le meurtre, l'atmosphère avait profondément changé. Que voulez-vous dire ? Demanda Scarlett. Le palace était un endroit particulier, un havre de paix pour les clients. Il y régnait un sentiment de parfaite sérénité. Après le meurtre, tout a été différent. M. Rose a été très affecté par ces événements, et surtout par ce qui s'est passé ensuite. Le procès de Lev Levovitch et sa condamnation. Ça a dévasté M. Rose et il était si fier de lui. Si vous entendiez à l'époque comme il en parlait, il était son héros. Il pensait même qu'il deviendrait président de la banque Ebesner, mais son héros avait malheureusement connu la pire des déchéances. Ça lui a fichu un tel choc à M. Rose. D'ailleurs, ça l'a tué.
Comment ça ?
Il s'est suicidé quelques mois après la condamnation de Levovitch. Balle dans la bouche avec son pistolet de l'armée, un truc affreux. On a retrouvé à côté de lui des articles de presse consacrés à la chute de Levovitch. Ça a été une période très difficile pour moi.
Que pouvez-vous nous dire sur le meurtre de la chambre 622, M. Luca ?
M'interrogeai-je alors.
L'ancien chef de la sécurité nous raconta d'abord le chaos du samedi avec l'intoxication générale, puis la découverte du cadavre le lendemain.
« J'ai été l'un des premiers avertis, » nous dit-il. « J'ai immédiatement prévenu la police et j'ai interdit l'accès à l'étage pour pas détruire d'éventuelles preuves. »«
Vous étiez au palace le matin du meurtre ? » m'étonnai-je.
« Ouais, pourquoi ?»«
Parce que vous vous y trouviez déjà le samedi soir. Nous savons que vous êtes intervenu dans la chambre 623 à 23h50. »
J'aurais effectivement dû rentrer chez moi ce soir-là, à la fin de mon service. Mais après l'intoxication générale, M. Rose était très nerveux, et je suis resté sur place. La nuit, nous tournions en principe avec un seul agent, ce qui était toujours suffisant. Mais au vu des circonstances, j'ai trouvé plus prudent d'assurer un renfort au cas où.
« Où vous trouviez-vous cette nuit-là » demandai-je.
L'agent de nuit était à la réception, comme toujours, pour surveiller l'entrée principale, le seul accès possible. Moi, je dormais dans un bureau de l'administration. Fallait que je récupère un peu, j'avais eu une journée éprouvante.
Et donc, personne n'aurait pu entrer par l'extérieur ?
Non, sauf par l'entrée principale. C'était la règle la nuit au palace, qu'aucun autre accès ne fût possible par l'extérieur. Il fallait être vigilant. Il y avait beaucoup de clients très fortunés avec des bijoux et de l'argent liquide.
Mais on peut passer par l'un des accès de secours, pour autant que l'on bénéficie d'une complicité à l'intérieur, fis-je remarquer.
Pour autant que l'on bénéficie d'une complicité à l'intérieur ?
Répéta l'ancien chef de la sécurité avant d'ironiser.
« Des bandits auraient aussi pu atterrir en hélicoptère sur le toit du palace. Nous étions raisonnablement prudents pour un village tranquille comme Verbier. Où voulez-vous en venir avec toutes ces questions ?»«
Monsieur Luca, » dit alors Scarlett, « nous pensons que vous avez peut-être vu quelque chose d'important quelques heures avant le meurtre. »«
Comment ça ?»
Elle lui montra l'extrait du rapport de police. « Le samedi soir 15 décembre, vous êtes intervenu dans la chambre 623. »
Ouais, je m'en souviens. Un client avait appelé la réception, qui nous avait aussi prévenu. Il se passait quelque chose, des cris, je crois.
Qui était le client qui a passé cet appel ?
Je l'ai jamais su. Je crois d'ailleurs qu'il ne s'était pas annoncé. Et à cette époque, le réseau téléphonique n'était pas encore informatisé. Nous ne pouvions pas savoir de quelle chambre un appel était émis. Je ne vois pas où vous voulez en venir.
Qui était dans la chambre 623 ?
Monsieur Hansen, je l'ai déjà dit à la police.
« Ça ne vous a pas étonné de ne pas y trouver M. Tarnogol ? » interrogeai-je. « C'était sa chambre, pas celle de M. Hansen. »
« L'équipe de sécurité n'est pas censée savoir précisément qui habite dans telle ou telle chambre. On nous donne un numéro de chambre et on va voir ce qui se passe, c'est tout. »
Scarlett abattit alors notre carte maîtresse. « Nous pensions qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette chambre. Vous avez lu la presse à l'époque. Vous savez donc que Signor Tarnogol n'a jamais existé. C'est Lev Levovitch qui interprétait ce personnage. » Nous pensons donc qu'il y avait Lev Levovitch dans la chambre 623. Ce soir-là, lorsque vous êtes intervenu, il y avait Jean-Bénédicte Hansen et Lev Levovitch. Est-ce que j'ai raison ? L'ancien chef de la sécurité poussa un long soupir. Il se leva de son bureau et alla se poster à la fenêtre, comme s'il voulait éviter nos regards.
« C'est vrai, » avoua-t-il. « Il y avait Lev Levovitch dans la chambre, ainsi qu'une femme. »
Pourquoi n'avoir rien dit à la police ? Demanda Scarlett.
Parce que M. Rose m'avait demandé de ne rien dire. Après l'incident, je l'ai informé de ce qui s'était passé et il m'a ordonné de ne pas dire que Lev était dans cette chambre. Il a toujours voulu le protéger.
Toutes les pistes nous menaient à Lev Levovitch. Sur le mur de ma suite, Scarlett et moi regardions les noms de nos trois suspects. Anastasia, Lev, Macaire. Même si, d'après Milan, Luca, Anastasia, c'était notre déduction de l'identité de la femme mentionnée par l'ancien chef de la sécurité, se trouvait dans la chambre 623 avec Lev et Jean-Bénédicte Hansen, nous la jugions hors de cause. Puisque l'on sait désormais que c'est Arma qui a emporté l'arme d'Anastasia, on pourrait éliminer cette dernière de la liste des suspects, suggéra Scarlett. C'est vrai, concédai-je. Et puis on sait également qu'Arma s'est débarrassé du pistolet d'Anastasia au moment de l'empoisonnement général, soit autour de 19h. Nous pouvons donc être certains que ce n'est pas l'arme du crime. Scarlett enleva le nom d'Anastasia du mur. Il ne restait plus que Macaire et Lev. Je repris. Notre suspect devait avoir accès à une arme. On sait que Macaire avait accès à des armes. Oui, mais Levovitch n'est pas en reste, rappela Scarlett. Au vu de ses 15 années d'imposture, s'il avait besoin d'une arme, il aurait pu se la procurer sans difficulté. Sur ce point, Scarlett avait raison. Elle poursuivit. Je suis de l'avis de Sagamore. Le suspect était dans l'hôtel et n'a pas bougé de l'hôtel après le crime. Pendant que la police l'imaginait dehors, il était dans les murs du palace. Il a pu s'enfuir par l'issue de secours, comme Anastasia l'a fait, objectai-je. Nous avons fait des repérages et étudié ensemble les plans du bâtiment. Le trajet emprunté par Anastasia pour quitter le palace était le seul moyen pour s'enfuir sans être vu de quiconque. Il fallait être très renseigné. On peut imaginer que le meurtrier avait minutieusement préparé son exécution, fis-je remarquer. Scarlett eut une moue de désapprobation. Soyons sérieux, l'écrivain. Si le meurtrier avait planifié de longue date l'élimination de Jean-Bénédicte Hansen, il ne l'aurait pas fait avec un revolver au milieu d'un hôtel. Ça ressemble à un acte brutal et improvisé. C'est d'ailleurs également l'avis de Sagamore, et ça me semble tout à fait logique. « À quoi pensez-vous alors ? » demandai-je. « Si le meurtrier a utilisé l'issue de secours pour s'enfuir, cela signifie qu'il connaissait très bien l'hôtel, comme seul un employé aurait pu le connaître. Donc, soit le meurtrier n'a pas quitté le palace après le meurtre, soit il connaissait les lieux comme personne. Allons, ça ne fait plus beaucoup de doute. Qui avait accès à une arme ? Qui connaissait le palace comme sa poche ?»« Levovitch, » dis-je. « Levovitch, » confirma Scarlett. Et le mobile est très simple. Jean-Bénédicte Hansen avait découvert la veille du meurtre que Levovitch était un Ogol. Levovitch l'a tué pendant la nuit pour protéger son secret. Ça tient presque la route, nuançai-je. Si Lev Levovitch a tué Jean-Bénédicte Hansen parce que ce dernier avait découvert la vérité à propos de Tarnogol, pourquoi a-t-on retrouvé dans la chambre de Hansen, justement, des éléments menant à Tarnogol? Levovitch les aura mis là pour se couvrir ensuite, suggéra Scarlett. Je ne suis pas convaincu, dis-je. Je crois que nous passons à côté de quelque chose. Il nous fallut plusieurs heures pour comprendre. Nous retournions les éléments dans tous les sens, et il y avait effectivement un détail qui clochait. Et voilà que tard cette nuit-là, alors qu'elle était plongée dans un océan de documents étalés au sol, Scarlett s'écria, le visage soudain illuminé. Mais oui ! Comment n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? Pensé à quoi ? Demandai-je. C'était là, sous nos yeux, depuis tout ce temps. Sans me donner plus d'explications, elle se rua sur son ordinateur et pianota sur le clavier. Sa recherche terminée, elle leva les yeux de son écran, à la fois fière et abasourdie par sa découverte. Puis elle quitta ma suite et se précipita dans les escaliers comme si elle ne pouvait pas supporter d'attendre l'ascenseur. Je la suivis sans comprendre encore. Nous arrivâmes au rez-de-chaussée et traversâmes le hall désert. Le veilleur de nuit s'était momentanément absenté du comptoir de la réception et Scarlett en profita pour passer derrière et filer dans le couloir de l'administration de l'hôtel. Elle retrouva immédiatement le bureau du directeur du palace. Elle en poussa brusquement la porte, certaine qu'il n'y avait personne dans la pièce à une heure pareille. Mais nous fûmes surpris par la lumière et par un homme assis dans un fauteuil. Scarlett le dévisagea, interloqué. Elle le reconnut aussitôt. Malgré les années, il n'avait pas changé. Il était tel que sur les photos des journaux. « Lev Levovitch, » murmura Scarlett. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?»« Alors vous avez tout découvert, » nous dit-il.